Laurent Goumard, le rendez-vous.
Merci Michael Ponge, on se retrouve à 22h, ou plutôt on vous retrouve à 22h pour le journal. Alors à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le héros de la résistance ?
Il va falloir s'accorder ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de théâtre, de Chéreau, de Jean-Pierre Vincent, de Brecht, d'Oran, de Tunis et même de Buffet Froid avec Jean Benguigui qui signe Un parfum d'orange amère, une autobiographie qui revient sur son parcours d'homme de théâtre, de cinéma, de télévision, de one-man show avec Patrice Chéreau en figure de référence, Benoît Lagan.
Retour sur le parcours d'un gordico qui démontre son goût pour l'esprit de troupe chez Patrice Chéreau, donc théâtre amateur au lycée Louis le Grand, puis dans les émissions de radio et télé de l'humoriste Laurent Ruquier, passant par les films d'Alexandre Arcadie.
19h30, la session live du vendredi. Ce soir, c'est le duo Aza Mazzotta, Lucille Como.
Oui, session sud de l'Europe avec Maria Mazzotta au chant, Redi Aza au violoncelle électrique pour une traversée des Pouilles à l'Albanie.
19h35, plateau ouvert avec Lucien Atoun qui publie Pour un théâtre contemporain. Là encore, un projet autobiographique sous forme d'entretien pour une vie engagée dans l'acte théâtral. Manu Farine.
Portrait d'un militant du théâtre de combat contemporain, doublé d'un esprit badaud, et c'est Micheline Atoun qui le dit.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagan, que l'on ouvre d'abord sur le son du jour de Zoé Sfez.
Nous sommes tous Charlie. Nous sommes tous Charlie. Nous sommes tous Charlie.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, ou plutôt c'était le son de la semaine.
Et ça va certainement être le son du week-end aussi, puisqu'il y a de fortes chances qu'on entende ce slogan « Nous sommes tous Charlie, je suis Charlie » lors des rassemblements organisés à Paris et partout en France ce dimanche. Alors, d'où vient-elle cette expression qui est arrivée quasiment tout de suite après l'attentat de mercredi ? Cette image même qui reprend la typographie de Charlie Hebdo sur un fond noir, reprise partout, utilisée dans les médias justement pour soutenir l'équipe de Charlie Hebdo. Elle rappelle un peu le « Nous sommes tous américains » qui est né au moment du 11 septembre. En fait, c'est Joachim Roncin, un directeur artistique et journaliste musical pour le journal gratuit Styliste, qui, dans les quelques minutes qui ont suivi la nouvelle de l'attentat, a conçu cette image pour Twitter, reprise très vite dans le monde entier, traduite « Yo soy Charlie, I am Charlie » par les médias internationaux en soutien à la France. Il a aussi très vite été détourné, critiqué « Je ne suis pas Charlie » est né, utilisé par ceux qui ne se sentent pas proches du journal mais condamnent quand même la tuerie de Charlie Hebdo. Je suis Ahmed, en référence au policier assassiné de sang-froid, pour rappeler qu'il n'y a pas que les dessinateurs qui ont été touchés par ce slogan ou son détournement. En fait, chacun cherche à exprimer une nuance sur ce qu'il ressent face à ce qui s'est passé. Depuis quelques heures, depuis qu'on connaît les noms des deux forcenés qui ont tiré sur Charlie Hebdo, Kouachi et même né sur Twitter, le « Je suis Kouachi ». Et ça n'est certainement pas fini, puisqu'après les deux prises d'otages, à l'issue tragique peut-être de ce soir, rien ne dit que ce week-end, ce « Je suis Charlie » n'aura pas d'autres formes nouvelles.
Jean Benguigui, vous étiez sur le point de réagir.
Je viens de faire un tweet, là, parce que ça massacre à Vincennes, là. Donc j'ai fait un tweet qui s'intitule « Boucherie cachère ». Voilà, j'ai rien à dire. C'est très grave, parce que là, on voit que ce sont des guerriers, c'est une guerre, et puis nous sommes tous menacés.
C'est pour ça que le terme de forcené n'est pas véritablement le terme que j'aurais utilisé. On appelle ça des terroristes.
Oui.
Alors,
des tueurs.
Il y a un gros débat d'ailleurs en ce moment dans les médias, puisqu'il y a plusieurs médias qui font des lives, ce qu'on appelle des lives, où il y a un débat sur forcené ou terroriste. En l'occurrence, pour effectivement les frères Kouachi, on peut dire terroriste. Pour le troisième, il était encore compliqué de définir un terme qui convienne à tout le monde.
Et l'on poursuit le journal de la culture avec le supplément week-end. Bon week-end, on se voit dimanche, j'imagine, Zoé. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent.
Et pour commencer, votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Et dans ce contexte très particulier, eh bien, j'ai tenté ce soir de savoir comment la fiction de télé française pouvait prendre en charge un tel traumatisme. C'est une habitude chez les Américains. Beaucoup de séries ont traité après le 11 septembre, par exemple, la question du traumatisme. Et chez nous, eh bien, il n'y a véritablement qu'une seule série en production quotidiennement qui pourrait être réactive. Et cette série, c'est le feuilleton quotidien de France 3, Plus belle la vie.
Et pour nous en parler, qui avez-vous contacté cette semaine ?
Eh bien, j'ai contacté directement dans l'après-midi Olivier Sulzinger, scénariste et directeur de la collection du Feuilleton. Il était très touché par les événements et voici son explication.
Au centre de cette série est la question du vivre ensemble. Nous sommes dans un quartier de Marseille où il y a des gens de toute origine, de toute religion qui vivent ensemble. Et nous, notre volonté depuis plus de 10 ans, c'est de réfléchir à comment on fait société, avec nos différences, etc. C'est pas toujours facile, etc. Mais on y arrive. Et là, on a l'impression, à travers ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé les jours précédents, qu'il y a des gens qui veulent fracturer la société française, qui veulent provoquer une sorte de climat de guerre civile, et c'est comme un défi pour la démocratie, pour les valeurs que nous portons tous. La fiction, elle ne peut pas, hélas, convaincre des fous, des terroristes de renoncer à des actes de barbarie, mais elle peut réfléchir à comment on dépasse ce traumatisme pour nous retrouver tous ensemble. Elle n'est pas là pour penser, encore que, mais elle est là pour nous aider à construire un récit collectif.
Et la série de France 3, par son rythme de production, est donc la seule à pouvoir réagir sur de tels événements. Elle l'a déjà fait par le passé. J'ai donc demandé à Olivier Schutzinger ce qu'il en serait dans les jours à venir.
On réfléchit effectivement à faire quelque chose où on est quand même sur le coup de l'émotion. Je pense que toute l'équipe, le producteur, les comédiens, les techniciens, les auteurs ont la volonté de faire quelque chose. Effectivement, comme on tourne tous les jours, on a la capacité d'intégrer une séquence supplémentaire pour témoigner de notre solidarité envers les victimes. Donc on y réfléchit très fortement. Voilà, on en est là et c'est possible techniquement puisqu'on tourne tous les jours et que les épisodes ne cessent de se tourner. Quoi. Entre le moment où on écrit et le moment où l'épisode est diffusé, on a trois mois et demi. Et entre le moment où l'épisode est tourné et celui où il est diffusé, il y a 4-5 semaines. Mais on a la capacité, dans des moments de drame, d'éventuellement retourner une séquence. Enfin, on est souple, on peut éventuellement penser à quelque chose.
Et pour conclure ce supplément week-end, eh bien une revue d'actualité un peu spéciale liée évidemment à l'événement de mercredi dernier.
Effectivement, Laurent, j'ai décidé de vous sélectionner quelques moments médiatiques pour montrer qu'après l'assassinat des caricaturistes de Charlie Hebdo, l'humour et la caricature, même sous le choc, ne cessent pas.
Et avec Charlie, il y a le Gorafi.
En une du webzine satirique Gorafi, on peut lire aujourd'hui « L'avenir à vous ne plus croire en nous ». Un article qui débute ainsi « Ce sont des révélations qui ont été reprises aux quatre coins du monde tout au long de la journée », interrogé dans les colonnes d'un quotidien suédois. « L'avenir a fait part de son désaveu pour l'espèce humaine, dans laquelle il dit ne plus placer le moindre espoir. »
Et le Gorafi de relever un peu plus loin.
« C'est devant deux journalistes médusés que l'avenir s'est laissé aller à quelques attaques en règle contre les humains qu'il a qualifié de cause perdue. L'avenir, qui assume entièrement le côté fataliste de sa déclaration, en a remis une couche. Je ne pense pas que l'humain puisse présager quelque chose de bon. J'y ai cru un instant à plusieurs reprises, notamment au moment de la fin du Moyen-Âge. Mais en fait, non.
Et avec Charlie, il y avait aussi les guignols.
Oui, dès mercredi, le soir même, les guignols de l'info de Canal+ rendaient un hommage aux caricaturistes avec finesse et émotion. Extrait.
Mohamed, vous êtes le prophète des musulmans.
Oui, vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits non plus.
Comment ça ?
En ce moment, avec la pub qu'on me fait, j'ose à peine sortir de chez moi.
Bonjour, Cabu, dessinateur. On est avec des potes, on peut entrer ?
Franchement, vous vous êtes bien foutu de ma gueule avec vos dessins. Hein. Mais soyez les bienvenus.
Et avec Charlie, il y a eu aussi les réseaux sociaux.
Oui, car outre les humoristes, il y a surtout depuis l'attentat à Charlie Hebdo de très nombreux internautes qui ont contribué depuis mercredi afin de rendre hommage aux victimes. Et parmi eux, un certain JB Bullet, 25 ans, qui a signé de nouvelles paroles sur l'air d'Hexagone, vous savez, la chanson de Renaud. Une version mise en ligne hier à 14h sur Facebook et relayée partout depuis sur Internet et sur des médias plus anciens tels que Le Parisien ou RTL. Sa chanson a été déjà visionnée par plus de 7 millions de personnes.
Extrémiste, viens descendre nos journalistes. Crois-tu passer pour un croisé en butant nos gardiens de la paix? Penses-tu vraiment avoir des couilles quand c'est ton frère que tu zigouilles pendant que la terre il t'implorait? C'est bon, chef, j'en ai eu assez. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion.
Merci Benoît, j'imagine qu'on se retrouve dimanche aussi.
Je serai là dimanche. Oui.
Place de la République, est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités, Lucien Atoun, Jean-Ben Guigui, Lucien Atoun ?
Écoutez, quand j'ai entendu tout ça, j'ai regardé dans mes disques. Et ma femme, qui a toujours l'œil, m'a dit, mais tu vois, il y a un beau disque.
Un 33 tours que vous avez avec vous.
Un 33 tours vinyle qui s'appelle Le Roi des Cons. Monsieur le Roi des Cons, c'est vous et moi, c'est eux. C'est Volinsky.
C'est un disque de Volinsky,
Fait avec Claude Confortès. Et alors, si vous voulez, je vous cite une petite phrase. La France tombera dans les mains des barbus drogués. Des ouvriers, je m'en foutiste, des flics syndiqués, des technocrates révolutionnaires, des énarques socialistes. Voilà, c'est pas mal déjà. Des Arabes milliardaires, des Belges ardéchois, des maires célibataires, des présidents noctambules. Voilà. Et je vous dis que je continue.
Oh bah allez-y, comme ça on va en apprendre un peu plus sur l'avenir.
Voilà, des curés pop, des journalistes persifleurs, ça c'est pour vous, des officiers communistes, des sexologues partouzeurs.
Ça c'est pour vous.
Oui, des futurologues catastrophiques, des juges trop cléments et des parents divorcés. Mon Dieu, quelle calamité, dit le...
Wolinski.
Voilà, c'est Wolinski.
Un disque qui date de quand ?
Le disque lui-même date de 74, mais il a fait avant en 68. Je ne veux pas mourir idiot, toujours avec Confortès. Ouais. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de tendresse, qui paraissait très violent, mais je me souviens l'avoir croisé avec son boucher, à qui il demandait d'être gentil avec la viande qu'il était en train de couper, sinon il ne pourrait pas la manger.
Jean-Marc Guigui ?
Non, moi j'ai beaucoup de mal. Je ne faillis pas venir là, parce que je trouve qu'on est des filtres, comme on prend beaucoup là. Tous, autant que nous sommes, si on aime un peu l'humanité. Et puis on n'en voit pas la fin, tout peut arriver. Quoi. Moi j'ai peur pour dimanche. Il peut y avoir un cinglé, il peut y avoir n'importe quoi. J'ai peur pour les écoles, j'ai peur pour ça. Et on dit qu'il ne faut pas avoir peur, mais soyons clairs, on a peur. Ils arrivent à nous terroriser, c'est leur métier de nous terroriser. Et nous sommes terrorisés. Et puis, simplement, quand on connaît ses Cabus, son regard, comment on peut tirer sur Cabu ? C'est comme si on prenait un poussin dans la main et puis qui sort, qui vient de son œuf et puis qu'on étouffe. C'est une horreur. Ce sont des monstres.
Oui, il faut dire qu'ils ne s'attendaient pas parce qu'une heure avant cet attentat, je sais que Wolinski parlait avec Claude Confortès de la préface qu'il faisait pour le livre qui sortira. Et il ne s'attendait vraiment pas
bien entendu.
Voilà. On ne peut pas parler de... On ne peut dire que ce sont des terroristes. Peu importe s'ils ont envie qu'on parle d'eux, c'est des terroristes quand même.
19-20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau Buffet Froid avec vous, Jean-Marc Guigui, comédien, découvert au théâtre au sein de la troupe de Patrice Chéreau à la fin des années 60, puis de Marcel Maréchal ou encore Georges Ostreller. Le cinéma, ça commence au début des années 70 avec Les Camisards de René Alliot. Il y aura Alexandre Arcadi, Claude Chabrol, Bertrand Blier, Laurent Hinman, aujourd'hui Olivier Nakache et Éric Toledano. D'abord, première question, depuis quand vous connaissez-vous tous les deux ? J'aurais dû même commencer par cela. Jean-Marc Guigui et Lucien Antoun.
On se connaît depuis 1964, je pense. Festival de Nancy, 1964.
Oui, avec donc Chéreau et Vincent.
Oui, quand on jouait L'Héritier de Village, là-bas, voilà. C'était 64.
Seulement, il y a un problème, Ben Guigui, de temps en temps. Il me regarde, il me dit, je suis content de te voir parce que tu es la seule personne que je peux regarder dans les yeux.
C'est une question de taille ou c'est une question d'ego ?
Non, j'ai toujours dit aussi que c'était le seul juif hawaïen que je connaissais.
Oui, et
pourquoi
moi,
hawaïen ?
Parce que l'été, il mettait des chemises très bariolées. Oui. Tu te souviens, Micheline ? C'est Micheline qui l'a
acheté. Micheline, sa femme est juste à côté du
Mais Vincent. Oui, non, c'est des gens que j'aime beaucoup.
Ah ben, c'est après Micheline.
Non, mais c'est quand même, il y a deux couples comme ça que j'ai connus en même temps, qui sont vous deux, Micheline et Lucia, et Jacques et Monique Land. Ce sont les deux seuls couples que je connaisse.
Eh bien, au Festival du Théâtre de Nancy.
Oui, voilà, qui ont travaillé et qui se sont aimés ensemble. Il y a sûrement des vagues, des tempêtes, j'ai rien à faire, mais qui sont toujours là, ensemble. Et je trouve ça, pour moi, qui ai une vie plutôt chaotique là-dessus, eh bien, je trouve ça bien, voilà.
Micheline, vous voulez peut-être intervenir ?
Oui, moi, je voulais dire, pas du tout. Je voulais saluer Jean-Ben Guigui et dire que je l'écoute avec délice, parfois à la radio. Et la dernière fois que je l'ai entendu, cet amuseur public qui fait des choses inénarrables parlait du théâtre que nous défendons tous avec un sérieux, avec une science, avec une culture extraordinaire. Il parlait de ses débuts avec Chéreau et avec Vincent et c'était un bonheur.
Ben oui, c'était... C'est con à dire, mais c'était peut-être parmi les plus heureux moments de ma vie. Voilà. Parce que nous étions jeunes, nous pensions que nous pouvions changer un peu la société. Nous pensons plein de choses. Nous pensons que nous allions tous devenir des gens importants, mais pas seulement en produit publicitaire, mais qu'on allait faire bouger les choses. Et on se rend compte que 50 ans après, ma foi, ça avance pas, quoi. Mais on en vit.
Alors, dans votre autobiographie Un parfum d'orange amer chez Fayard, vous parlez bien entendu de la présence de Patrice Chéreau.
Oui.
Vous avez à peu près le même âge à la même époque. Vous êtes formés ensemble.
Oui.
Et pourtant, Il a vraiment une figure de maître pour vous. Qu'est-ce que vous avez vraiment appris au théâtre, alors même qu'il a été, on pourrait dire, votre seul maître au théâtre?
Oui, moi,
seul
j'en ai professeur. Pas. Non, je veux dire, en même temps, c'était bien et c'était pas bien. Parce que j'aurais préféré avoir 20 ans après, le rencontrer lui en ayant 40 ans. C'est-à-dire d'avoir un vrai maître avec une distance d'âge, une distance d'expérience. Là, nous étions tous sans expérience. Donc, la référence que j'ai, ce sont des souvenirs de théâtre. Mais il n'y a pas de recette, parce qu'il ne savait pas encore comment marchaient les acteurs. À l'époque, il était un piètre directeur d'acteurs. C'est venu après, tout ça. Mais il était déjà un grand peintre de théâtre, un grand pompeur. Parce que quand j'ai travaillé avec Strehler, quand j'ai fait l'opéra de Katsu, il savait que j'allais travailler avec Chéroux. Et il me dit, alors Jean, tu es content de voir le vrai? Parce que Patrice, il m'a copié. Hein, voilà. Tu vois, donc, c'est vrai qu'on était une fratrie comme ça, mais tous ensemble. Et après, on ne se voit plus, on ne travaille plus ensemble. Parce que quand on a vécu les années de formation, de naissance ensemble, on devient aussi des témoins gênants. On est des témoins gênants de nos jeunesses. Parce que moi, je sais tout de lui. Il savait que je savais tout de lui, comme d'autres, d'ailleurs. Donc, quand on devient des personnages publics et tout ça, c'est ce qui se passe en politique beaucoup, on s'éloigne. Parce que le témoin, il faut s'éloigner pour laisser fabriquer un personnage rêvé.
Oui, juste pour Strehler,
il
n'y a pas que Strehler, contrairement à ce que disait Giorgio, parce qu'il récupérait tout ce qu'il pouvait, oui. J'ai travaillé avec lui, il y a aussi Visconti. Et je me souviens d'avoir dit à Chéroux, au micro, je disais, vous avez vu des films de Visconti, par exemple Senso? Il m'a dit, mais je l'ai vu 16 fois.
Ben oui.
Voilà. Et donc, c'était une école italienne.
Oui. Il a appris comme les peintres, son père était peintre, à copier les maîtres. Il a commencé en copiant les maîtres.
Voilà, il y a un livre magnifique qui parle aussi de Chéroux et qui est de Richard Peduzzi.
Signé par son scénographe,
voilà.
En effet.
Là-bas, c'est dehors. Et si vous avez de l'argent, parce qu'il coûte cher sûrement, mais c'est un très beau livre publié à Actes Sud et il y a des reproductions superbes.
Lucien, Benoît Lagan,
ouais,
j'aimerais bien avoir le droit de Lucien Hatoun. Benoît Lagan,
Jean Benguigui, vous écrivez justement dans votre autobiographie que votre premier souvenir de Chéroux, ça passe par ses croquis des tableaux de la pièce qu'il était en train de monter. Que révélaient ces croquis du metteur en scène en devenir justement?
Eh bien, quand je suis allé le voir la première fois, je me suis dit, il m'a montré ses échantillons en fait, quoi. Il me dit. Il dit voilà, c'est ça. Et puis il prenait nerveusement un papier, il me montrait qu'il avait fait une espèce de storyboard. Il me faisait des storyboards en fait de ses pièces avec des croquis. Il faisait les décors à l'époque. Après, quand il a rencontré Peduzzi, il se contentait de dessiner les personnages. Et tout de suite, moi, j'arrivais de rang. J'avais une culture laïque et républicaine.
Famille d'instituteurs,
tout ça. Je veux dire, ce monde d'artistes, je le connaissais peu. Je connaissais les tournées Carcentier, je connaissais Fernand Ledoux, j'étais un fanatique de théâtre, de choses comme ça. Et là, j'ai découvert un monde avec lui, avec Jean-Pierre ou quoi, des gens qui étaient engagés politiquement, qui étaient déjà installés dans une espèce, parce que c'est des enfants de peintres, enfants de trucs, qui étaient déjà installés dans une espèce de milieu artistique. Et moi, j'étais un buvard. J'ai pris ces choses-là. Avec plaisir, j'ai tout pris ce qu'ils m'ont donné. Je les ai critiqués après, mais pour le moment, rien. J'étais avec eux. Voilà.
Et pourquoi je te posais une
Lucien
question
qui prend l'émission en main, vous avez tous compris.
Non, pas du
allez-y,
tout. Non,
il a la nostalgie.
Dans les 6 jours pour la création, quand tu as participé après le marathon des auteurs, tu as eu une carte blanche, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin tu as proposé de faire l'accent.
Oui.
Et tu te souviens?
Non.
Non, voilà, c'est ce que je
voilà. Ça, ça a mené un entretien.
Voilà.
Alors non, peut-être que vous avez
imité.
Oui, tu m'as imité.
Non, j'ai imité parce qu'il m'invite aux 20 ans, c'était aux 20 ans, le truc.
Oui.
Et j'ai imité Lucien Hatoun. Je me suis fait passer pour lui.
Oui, non, c'est vrai.
Vous êtes arrivé comment?
Comme ça.
Oui, et il a dit, ouais, Micheline. Voilà.
Ah ben voilà, alors ça, la meilleure imitation.
Mais c'était avec beaucoup d'affection.
Oui.
Parce que c'est des gens que j'aime bien, ils ont fait un travail quand même de longue haleine et avec de moins en moins, en fin de compte, de sous. Et de puissance par rapport aux puissances publiques. Alors, même à l'époque, il y avait encore des ministres de la Culture qui lisaient, mais c'était déjà difficile.
Jean-Benguigui, tout à l'heure, je disais que vous n'aviez pas eu de formation théâtrale à part avec Chéroux. C'est pas vrai, vous avez eu 3 mois de formation au TNS. Bon, c'est pas beaucoup. Dans quel cadre vous décidez de suivre ces cours et pourquoi vous déchantez très vite? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
Il s'est passé que je voulais faire plaisir à mes parents qui avaient peur, enfin, tout ça, bon. Ma mère m'avait dit, avec ton physique, de toute façon, tu ne seras jamais acteur. Donc, elle m'avait vachement encouragé. Ma mère, c'était le contraire d'une mère juive, quoi. Et puis, je rencontre Gignoux au Festival de Nancy.
Gignoux.
Gignoux, Hubert Gignoux, qui me dit, ça serait bien que tu viennes. On fait une réunion avec Jean-Pierre et Patrick, je me souviens. Ça serait bien que tu y ailles. Et j'y suis allé. D'abord, j'ai commencé par ne pas trouver de chambre à Strasbourg. Il prenait pas les il y a pas de chambre pour Ben Guigui. Alors je comprenais pas. Ben Guigui, il prenait pas de chambre. Et j'étais avec Robert Gironès, lui non plus. Il avait un nom espagnol. Alors moi, je vais voir le directeur de la, je vais voir le directeur de le truc. Il me dit, mais ah ben il faut que tu ailles voir la communauté juive. Je dis quoi? Je dis, je vais pas aller voir que la communauté juive pour avoir une chambre. Il me dit c'est le seul moyen à Strasbourg. Et en fin de compte, on a trouvé une chambre avec Robert. On avait une chambre, on a trouvé une chambre avec un grand lit à Ligolsheim, ça s'appelait. Et c'était assez loin. Et on prenait le bus et moi, on ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait parce qu'il ne prononçait que les finales. Et il y avait, sur la route, c'était Bolsheim, Bittelsheim, Bittelsheim. On entendait que Scheim. Alors on descendait au pif dans la nuit. On disait Scheim, ça doit être Molsheim. Voilà ma vie comme ça. Mais ce sont des très beaux souvenirs. Pauvre Robert est mort. Et alors, je ne me suis pas entendu là-bas du tout parce que j'avais eu... Parce que j'avais la tête, parce que j'étais très prétentieux, parce que j'avais fait déjà des spectacles avec Chéreau, le Festival de Nancy, machin, tout. J'avais rencontré Grotowski, tout ça. J'étais dans la modernité. Et là, je retrouve un enseignement extrêmement traditionnel et j'étais pour eux un ovni, quoi. Alors ils m'ont dit, il faut que tu t'en ailles parce que tu n'es pas un acteur de compagnie, tu ne peux jouer que les monstres. Ça fout le moral. Je suis parti et j'ai commencé tout de suite à reprendre mon rôle dans l'affaire de la rue de l'Oursine.
Voilà. Benoît,
alors, un spectacle,
oui, Lucien,
non, mais l'affaire de la rue de l'Oursine, c'est un spectacle le plus drôle que j'ai jamais vu. Et il y avait une bande de fous qui était là. Mais c'était, moi, je l'ai vu aux Trois Baudets. Hein, et à la sortie, un dimanche après-midi, avec Micheline, il y a un jeune homme qui s'avance vers moi. Il me dit, Monsieur Atoun, je suis Patrice Chéreau. Je sais que vous connaissez tout Paris. Alors, il a commencé par sortir son carnet. Il fallait que je lui donne les numéros de téléphone de chacun des critiques parce qu'il allait les appeler de la part de, en disant « Lucien Atoun a beaucoup aimé le spectacle ».
Voilà.
Benoît.
Mais oui.
Chaque soir, nous demandons à nos invités de nous proposer un son. Et en ce qui vous concerne, voici ce que vous avez choisi. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure.
Messieurs, malheureusement, je suis obligé de faire un petit voyage. Juste pendant le couronnement.
Mais sans vous, patron, cette cérémonie va être comme si on servait... de la soupe sans cuillère.
Pendant mon absence, la direction des affaires sera assurée par ma femme.
Mais notre grand coup sur la banque, alors.
Allez, vos gueules. Ah, si ce coup l'a réussi, messieurs. Fini le petit travail. Plus de vol à l'esbroufe. Plus de vol à la tire. Nous opérons en grand. Nous quitterons Soho pour nous établir à Londres, en plein centre de la ville.
Maquis, mon cœur se brise dans ma poitrine. Il faut que tu me quittes au moment où nous pourrions être si heureux.
Mon cœur se déchire aussi, mais je dois m'en aller. Et Dieu seul sait quand je pourrai revenir.
Donc, identification du son, sa signification, Jean-Ben Guigui.
J'ai joué l'opéra de Katsu avec Georges Ostreller. C'était un des jolis moments de ma vie aussi, parce que j'ai travaillé avec ce fou pendant... C'était deux mois absolument hallucinant.
Et là, donc, c'était un extrait du film,
c'était
des années 30.
Un extrait du film, oui. Et puis je chantais, j'étais tellement content de chanter au Châtelet. Et puis Ostreller, c'était invraisemblable. C'est-à-dire qu'on a fait la première quand même. Il y avait beaucoup de monde, hein, l'opéra de Katsu et tout. On n'avait jamais fait un filage. Il faisait pas ce qu'il voulait pas. Et il faisait ses adieux la veille du spectacle. Il disait, je m'excuse, je m'en vais parce que je ne veux pas voir la trahison que vous allez faire. Mais c'est vrai. Et alors, c'est extraordinaire. Alors que pendant toutes les répétitions, c'était un spectacle. Parce qu'il avait la table de mise en scène avec des invités. Le ministre de la Culture, tel acteur italien. Il disait cette chose magnifique. Je m'habille en noir pour pas vous gêner. Que je suis un acteur parmi vous, c'est tout, avec ses cheveux violets à la Carayanne. Et il avait un tapis blanc, un drap blanc qu'il amenait jusqu'au plateau. Et ce qui était extraordinaire, non seulement on ne faisait pas de filage, mais en plus personne n'a jamais dit vraiment son texte, puisque dès qu'on commençait une phrase, il bondissait sur le plateau et il a joué à ta place. Oui. Tu vois ? Donc c'était une expérience, il fallait être costaud. Hein. Et alors il y avait des gens qui l'aimaient, moi il m'aimait. Il m'adorait, il m'a pris une espèce d'assistant. J'appelais tous les jours à Milan pour savoir comment c'était passé. Par contre, il avait des gens dans la gueule. Il adorait Denise Jans, il adorait moi, Barbara Sukhova. Non, il n'aimait pas Barbara Sukhova, parce que grande, grande actrice allemande. Parce qu'il disait, elle est très bien, j'ai rien à faire. Et il détestait Yves Robert. Il détestait Yves Robert. Ouais. Il a dit cette chose extraordinaire, vous connaissez Yves Robert.
Bien sûr, ouais.
Yves, tu joues social-démocrate. Tu veux toujours plaire. Pour mes pitchoums, c'est un salaud. Pourquoi tu veux pas jouer? Voilà.
Ouais. Non, mais, Lucien Atoune. Oui, par exemple, l'histoire du filage dont tu parles, là. Donc, je vais à l'Odéon pour l'illusion comique, Corneille, et on vient avec Micheline. Et là-dessus, il y a Gérard de Sarthe.
C'est facile de vous imiter, il suffit de dire je viens avec Micheline. Voilà.
Gérard de Sarthe ne fait un signe comme quoi il est fou. Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, on n'a pas encore filé et on joue demain soir. Et attendez. Et alors, Strehler dit, non, cette fin ne me plaît pas, faites-en, il faut faire une deuxième. Alors, ils font une deuxième. Et puis, il dit, ça ne me plaît pas. Non, allez, on va faire une troisième. Alors, les comédiens commencent à s'énerver, faire une troisième. Et en cours de troisième, il dit, c'est pas la peine de continuer, vous faites ce que vous voulez, j'ai déjà choisi. Mais il sait, voilà.
Ça, c'est italien. Et moi, j'ai fait le banquet avec Marco Fiorelli. Il m'appelle. Il me voit 30 secondes. Il
dit, faire le
banquet. Et moi, j'apprends le banquet par cœur. Parce que je faisais le récitant, donc il fallait que je me tape tout le temps. J'arrive le premier jour, j'avais pris une répétitrice et tout, j'étais très angoissé. Il me fait, écoute, j'ai bien regardé le scénario, c'est de la merde, on va improviser. Même chose, tu vois. Ouais. C'est des fous, les Italiens.
Non, mais il y a aussi une chose, parce que ce que tu disais, que toi, tu te téléphonais tous les midis. Moi, un jour, il m'appelle, je vais à son
hôtel. Strehler, toujours.
Toujours. Et il me dit, voilà, j'ai besoin de toi, il faut que tu t'occupes, tu me conseilles. Alors, bon, okay. Alors il me dit, tu me conseilles sur les textes qu'il faut donner à jouer, etc. J'ai dit très bien.
Donc et vous retournez vers Micheline et...
Non, là je savais moi-même. Donc il s'en va, et puis je l'appelle, mais j'ai dit, mais pourquoi tu te plains? Si je ne suis pas là, c'est que je te fais confiance.
Eh oui.
Et alors, ça continue comme ça pendant 6 mois, et je t'ai amené à programmer tout le petit Odéon sans l'avoir. Et alors, à conférence de presse, Strehler arrive, après 6 mois d'absence, et de Milan, il arrive, il m'embrasse sur la joue, il continue, et puis il revient, et il me dit, Lucien, je crois que je ne t'ai pas assez embrassé. Et il m'embrasse plein. Et alors, il fait sa conférence de presse, il dit, dans ce trou noir que les comédiens français appellent le petit Odéon, on va jouer un nouvel auteur, un Suédois, un certain Lars Norén. Il fait un blanc et il dit, j'aime pas du tout. Et il fait un autre blanc, il dit, mais Lucien m'a dit de faire, je fais.
Dernière question pour Jean Benguigui.
Oui, Jean Benguigui, donc dans les années 60, Chéreau, dans 86, Strehler, et en 1978, Aulus Cerner, votre premier one-man show. Comment vous retrouvez dans un tel exercice? Et puis dans quel esprit vous appréhendiez?
Parce que j'ai envie de le faire. Parce que j'avais beaucoup souffert pendant toutes ces années-là. J'aimais beaucoup la bande, j'adore le collectif. J'avais envie un peu d'être tout seul, c'est-à-dire de travailler tout seul. Parce que la mode de l'époque, c'était qu'il y avait un metteur en scène, un assistant metteur en scène, un deuxième assistant metteur en scène, deux dramaturges, un décorateur, etc. Donc, si vous voulez, devant vous, quand vous faisiez, par exemple, je me souviens, qu'on avait fait les... C'est des souvenirs de vieux cons, hein, c'est horrible.
Allez-y.
Quand on avait fait la pièce de Brecht, qu'on a joué à Avignon Rap, putain, je connais que ça.
Dans la jungle des villes.
Dans la jungle des villes, qui était un spectacle magnifique.
Oh, magnifique.
Je me souviens, j'avais 6 monologues dans la pièce. Donc, j'avais un service de répétition que pour moi. Et on se retrouve à la salle Gémier, comme ça, il y avait la table avec 9 personnes devant moi. Et moi, je commence à répéter. J'envoie le premier monologue. Et je vois 9 personnes qui... Parce que tu comprends, moi, je pense, on va le refaire. Et là, je suis parti. J'ai dit, écoutez, c'est pas égal. Vous voyez? Donc, j'avais envie un peu de faire du musical. D'ailleurs, j'ai un de mes one-man shows, j'ai appelé, d'après la phrase de Kafka, oui, j'étais un peu atypique dans le musical français. Mm-hmm. Mieux vaut faire du musical que de rester au jardin zoologique. Parce que je sentais qu'il y avait une espèce de... C'est une Kafka qui a dit ça, c'est magnifique. Parce que je sentais que je rentrais dans un... Qu'il fallait me laver, quoi. Que je rentrais dans un système où j'allais faire tous les grands théâtres nationaux, machin, et tout ça, et j'avais envie de faire autre chose. Et là, les gens m'en ont beaucoup voulu. Parce que quand vous êtes formé à cette école et que vous jouez dans les théâtres privés, j'ai joué beaucoup dans le privé, quand vous faites des one-man shows, après quand vous commencez à faire des films, ou alors quand vous êtes chroniqueur à la télévision, ça c'est encore pire, c'est comme si vous avez couché avec les Allemands, quoi. Les gens vous font la gueule. Il y a des crétins dont je ne dirai pas les noms qui te font bravo, comme ça et tout. Je dis quoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, mais je ne le ferai pas. Je dis, parce que tu ne peux pas le faire, c'est tout. Voilà.
Le rendez-vous, la session.
Jean Benguigui, Lucien Atoune et Micheline, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est la session live du vendredi, défendue avec brio par Lucille Como.
Alors. Session Voyage dans le Sud avec le duo d'artistes Aza Mazzota. Reddy Aza est au violoncelle électrique, Maria Mazzota au chant. Il monte en 2010 ce projet de duo particulier qui traverse toutes les cultures musicales du sud européen, des Balkans jusqu'aux Carpates, en passant par le sud de l'Italie. D'ailleurs, leur album s'appelle Ura, Ura, mot qui a deux sens. En albanais, il signifie pont, et en dialecte des Pouilles, il signifie maintenant. Et on les écoute tout de suite avec Maria, une prière traditionnelle du sud italien, chantée en grico, une des langues ancestrales des Pouilles, avec des effets au violoncelle et des boucles au chant. Vous allez l'entendre, Asa Mazzotta, c'est à vous. Mazzotta était au chant, Redi Asa au violoncelle, en direct dans le studio 108 de la Maison de la Radio. L'album Ura à Paris chez Puglia Sounds. Ils seront en concert le 4 février prochain au studio de l'Ermitage à Paris. Ce sera dans le cadre du festival Au fil des voix.
Tout à l'heure, Lucien Thoune, vous parliez du fait que vous aimiez beaucoup chanter. Quel type de voix ? Mariton ?
Jean-Benguigui. Comme un acteur, un acteur qui chante. Comme un acteur qui chante, quoi. C'est-à-dire, j'ai chanté... l'air des canons dans Kurt Weill, ça. J'ai chanté l'opérette Le chanteur de Mexico aussi, ouais, avec l'immense metteur en scène espagnol qui a fait ça, qui est un type formidable.
Qui s'appelle
Il le fait exprès. Il a vu qu'il y avait un blanc.
Je sais bien qu'à mon âge, je fais l'immense metteur en scène espagnol en pensant que tout le monde le connaît. Sierry, je sais plus, putain, arrête. Oh. Je sais plus, il faut regarder ma bio.
Ah oui, on va la retrouver.
On va la retrouver, voilà. Ça, c'était formidable. C'était un spectacle magnifique, en plus. Et avec Rosie de Palma, on avait un duo absolument incroyable, quoi, je dirais. Là, ça m'a amusé beaucoup. Donc, et moi, je suis très, très envieux quand je vois les musiciens et les danseurs, parce qu'eux, ils travaillent. Alors que les acteurs, on ne travaille pas assez. Oh. Non, c'est pas pareil. Eux, ils s'entraînent tout le temps. Et puis, ils ont une mesure nette. Un acteur, on peut dire, je l'aime, je l'aime pas, il est bien, il n'est pas bien. Mais un chanteur, on sait qu'il peut aller dans telle tessiture et pas ailleurs. Un danseur, il faut qu'il fasse la pirouette comme ça et pas autrement. Il est pas, il va pas dire comme un acteur, oui, mais enfin, c'est pas ma sensibilité, quoi. Ça va, tu l'emmerdes, moi. Ça, voilà.
Le rendez-vous.
Lucien Atoun. Plateau ouvert avec vous, Lucien Atoun, militant, découvreur, passeur, créateur de théâtre ouvert lors du Festival d'Avignon. C'était en 71. Vous publiez un long entretien avec le critique Antoine Debecq, titre « Pour un théâtre contemporain ». Tout est dit aux éditions Actes Sud. Vous revenez sur une vie de théâtre, de votre petite enfance à la Goulette dans le port de Tunis, à votre succession au théâtre ouvert en janvier 2014, en passant par votre arrivée à Paris en 1947, la rencontre avec Micheline. Dite Atounette, à l'âge de 12 ans à l'école Maïnonide. Il y a eu les innombrables premiers boulots, les souvenirs de spectateurs, l'épisode de critique, la naissance de théâtre ouvert et en creux, toute une histoire du théâtre contemporain en France de l'après-guerre à aujourd'hui. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur votre propre parcours au cours de ces 20 heures de conversation ?
Bien, je dois dire que ça s'est fait d'une manière bizarre. Donc c'était difficile parce qu'un jour... Antoine Debecq, qui est un grand historien et un grand homme sur le cinéma, par exemple, etc., me dit « Je veux faire des entretiens avec toi. Ben, » Je dis « Oui ». Et on commence une série d'entretiens. Et puis, un jour, il vient me voir, il me dit « J'ai une maladie, je vais arrêter. Et je ne veux pas te faire enterner. Tiens, voilà les enregistrements. Tu vois ça avec quelqu'un d'autre. » Moi, j'ai dit « Sûrement pas question que ça reste là et ça ne bouge pas. » Puis, deux ans après... On était au Festival d'Avignon, Boulboum. Et alors, je suis désolé, on était Michel et moi. Et là-dessus...
C'est Lucien Atoun qui parle. Comme beaucoup. Hein.
Voilà. Oui. Et là, il y a Antoine qui se tourne, qui nous voit, et il a tout d'un coup les larmes aux yeux. Et le lendemain, il m'appelle, il dit « Est-ce qu'on peut reprendre ?» J'ai dit oui. Et donc, en fait, moi, j'ai fait le contraire de tout ce que j'ai fait dans toute ma vie. Je me suis laissé guider. Comme vous savez, j'ai fait que des interviews. Ouais. Et là, bah, je jouais le jeu de Lucien Atoun à l'envers, si j'ose dire. Donc, ce qui m'a permis quand même de remonter loin et de savoir que j'avais quand même quelques constantes dans les choses que j'aimais.
Par exemple,
ce que je n'aimais pas, ce que j'aimais, c'est le théâtre du jour. Bon, quel que soit le moment où j'étais, bien que j'ai eu une parenthèse à laquelle a pu assister le camarade de Jean, puisque j'ai...
Avec l'amour des Allemands, oui, oui, non, entre autres.
Non, puis j'ai fait surtout, j'étais avec le groupe de théâtre antique de la Sorbonne, où j'ai joué les Perses, et alors on avait été invité en 59 au nom de la fraternité qui s'annonçait par des gens qui étaient plutôt dans le côté Camus, mais Algérie française
c'était
de gauche.
Crade. C'était le crade.
Voilà, et j'arrive, on va à Merzelkébir, un magnifique endroit, et on joue les Perses. Alors, il y avait avec nous Jean-Pierre Miquel, mais il y avait aussi d'autres gens différents qui avaient changé. Georges Hilibert, par exemple, a décidé de jouer le messager. Il vient de nous quitter, mais il avait une voix un peu odéonesque. Alors là, il en profitait et il disait « Allons, allons, enfants des Grecs, c'est la lutte suprême !» Et alors, comme il n'y avait pas une seule séchière dans la salle, il y avait le Gambiaise, il y avait de l'ouvrier, etc.
Et puis moi, j'y étais, les gosses, on y était, nous.
Voilà, et alors,
j'ai vu.
Oui, et alors à la sortie, il y avait un pot, comme la tradition le veut, et il dit « Je crois bien que si j'avais lu la pièce, je ne vous aurais pas invité. » Et voilà, et effectivement, et il y a deux journaux qui ont eu les critiques, il y a un qui a été carrément vidé du journal. Parce qu'il a osé écrire. Les gens se sont demandé comment l'immense flotte perse est battue par une petite troupe de Grecs. Et c'est négligé, dit-il, le psychologique. Et tandis que les Perses se battaient pour la gloriole, les Grecs se battaient pour leur indépendance. Alors lui, il a été vidé du journal. Voilà. Et donc moi, si vous voulez, tous ces souvenirs m'ont fait que j'ai toujours voulu faire du théâtre et du bon théâtre à toutes les plages. J'ai tout fait.
Acteur,
tout,
régisseur,
en scène. J'ai même, c'est moi qui ai inauguré les Salines d'Arquestan, où on a joué pour la première fois du théâtre avec Les Bouches, avec Samy Frey, Jean Dallarger. Mais ce que je ne voulais pas faire, c'est le théâtre que je n'aimais pas. Alors c'est pour ça que vous avez fait allusion au petit boulot. Oui, vous voyez comme je suis grand, je suis très grand, j'étais débardeur au hall. Je vous assure.
Mais tu étais plus près pour le sac.
Voilà. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit un jour en plaisantant un journaliste, j'ai fait mes débuts au cabaret en même temps que Boustaki et Guy Béard. et eux dans la chanson et moi dans la plonge. Et voilà, j'avais une patronne qui nous fait... Les verres, c'était des éprouvettes. Il fallait les nettoyer.
Alors, quand... Au port du salut, non ?
Oui, exactement, voilà. Et voilà, donc, mais j'ai toujours avancé et je crois, et c'est surtout, moi, j'avais envie de communiquer. Pour moi, le théâtre, c'est toujours deux. Il y en a un qui joue et l'autre qui voit. Et seulement ça bouge, c'est-à-dire qu'il y a des, avec l'histoire du temps qui passe, et bien celui qui voit et celui qui joue n'ont pas la même position, parce qu'on apprend d'autres choses.
Jean-Marc Guigui, vous l'avez vu jouer ? Vous l'avez vu dans
moi,
des mises en scène ?
Moi, j'ai vu les Perses, je ne m'en souviens pas, j'ai souvenir, parce que moi, j'étais au CRAD, il y avait un club, nous, les jeunes, on allait à Merzel-Kébir. C'était un endroit légendaire, Merzel-Kébir, c'est la forteresse où avait été enfermé Cervantes. Oui. Donc, ce n'était pas n'importe quoi, quoi. C'était un truc, le fort de Merzel-Kébir, voilà. C'était incroyable.
Oui.
Et donc, j'ai vu ça, j'ai vu des Monterlands aussi à la même époque, avec Jean David, tout ça. C'est la même bande, c'est le CRAD qui organisait ça.
Oui, et puis d'ailleurs, il y a une chose émouvante. C'est que je commençais à écrire par hasard dans la revue Europe.
Comme critique.
Hein ? Ah oui.
Oui, c'est-à-dire que je vais, avec toujours le théâtre antique de Sorbonne, je vais à Bruxelles et je vois une chose formidable, une Antigone de Brecht que personne ne connaissait en France et dans la revue Europe qui était la Bible, elle n'était pas mentionnée.
C'était d'obédience communiste.
Oui, et j'ai eu un choc et j'ai fait un papier. Et je l'ai présenté au grand-père de Pierre Lescure, vous savez, Monsieur Pierre de Lescure, qui a fondé avec Vercors les éditions de Minuit, qui ensuite les ont perdues au profit de Jacquelin, hein. Bon, au profit de Lindan. Et alors, je lui montre, et le lendemain, il me dit, « Ah, vous avez rendez-vous avec Pierre Abraham, qui vous attend. » Je n'en revenais pas, et qui est le directeur de la rue Europe. Et puis, je lui dis, « Mais je vous ai donné des poèmes, et vous ne m'avez rien dit, des poèmes d'amour. » Il dit, « Vous savez, je les ai lus. Mais moi aussi, j'ai écrit des poèmes d'amour. Et un jour, je les ai montrés à Aragon. Et Aragon m'a dit, « N'écrivez jamais de poèmes d'amour, ou alors, ayez du génie. »
Manu Farine.
Michel Atoun, alors évidemment, vous revenez sur tout ça dans ces entretiens, mais vous revenez aussi un petit peu, brièvement, sur votre enfance, sur votre père,
oui.
Maurice Atoun, autodidacte,
oui.
Communiste par ailleurs, qui aura eu, lui, en revanche, plusieurs vies, avec des hauts, des bas,
oui.
Des épisodes même de vedettes de music-hall,
oui.
De musiciens,
oui.
Et de comédiens de théâtre. Quel rapport à la scène est-ce qu'il a bien pu vous transmettre ?
Écoutez, mon père, tout à l'heure, dans ton bouquin, tu parles de Bourguiba.
Oui. Hein,
mon père, avec le frère de Bourguiba, a créé, quand je suis allé il y a quelques années en Tunisie, on m'a montré les documents, a créé le premier théâtre national de Tunisie qui jouait uniquement en arabe dialectal. C'était pour faire en sorte que ceux, parce qu'il fallait parler français ou rien, alors donc ça permettait aux juifs et aux arabes d'aller au théâtre. Et ça m'a, et quand je l'ai appris, ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, au début, je le suivais. Et c'est comme ça que je raconte dans le livre que moi, j'ai eu un bide avant toi, mon cher Jean. C'est à 4 ans et demi, j'ai eu mon premier bide, parce que mon père donnait un concert avec les musiciens, et les musiciens commençaient à s'énerver parce que les spectateurs faisaient beaucoup de bruit. Alors je suis monté sur le plateau et j'ai dit « Silence au poulailler !» Mais ça n'a pas marché. Voilà.
En 57-58, vous avez pensé un temps être réalisateur de télévision.
Oui,
Qu'est-ce que vous attendiez de ce médium à l'époque ?
Eh bien, j'attendais de devenir un réalisateur qui j'attendais beaucoup de la télévision. Et tout ça, ça s'est passé au café Le Tournon. Donc, il y avait un copain qui...
Ah oui, Le Tournon.
André Mathieu.
On parle
voilà,
bien.
Voilà.
Et Xarniac et tout ça.
Xarniac et tout ça, voilà.
Qu'est-ce que c'est
René, lui, c'est un pensionnaire du Tournon. Moi, je pense que c'est un amateur.
Du café Le Tournon.
Ouais. Le Tournon, c'était un café qui est tenu par une dame qui, paraît-il, a eu des problèmes à la Libération. Mais elle avait... 80% de sa clientèle était socialo-marxisto.
Et des exilés, beaucoup aussi.
Et beaucoup de juifs et beaucoup de noirs américains.
Joseph Roth en particulier.
Comment ?
Joseph Roth en particulier.
Oui, Roth, il habitait au-dessus. Mais il y avait Richard White, Cesar Himes, qui venait avec sa célèbre canne et qui nous regardait, etc. Et elle avait des gens qu'elle aimait bien. Donc j'étais de ces gens-là. Et par exemple, comme j'étais fauché, je prenais un café vers midi. Et elle me dit, je te préviens, tu prends ton café, c'est d'accord. Mais tu peux rester toute la journée, mais il faut que tu te balades toujours avec ta tasse, même vite, parce que je ne veux pas qu'on croie que chez moi, on ne consomme pas. Voilà. Et c'était là qu'on s'est... Alors, je suis allé à ce cours de télévision, c'était formidable, on apprenait à faire vraiment très, très bien. Et en un jour, on nous a dit, il faut faire un film. Et comme on était en pleine guerre d'Algérie, j'ai eu l'idée de faire un film muet, mais uniquement avec des plans où on voyait une cellule dans laquelle, manifestement, quelqu'un avait l'air d'être torturé avec des bottes qu'on voyait, etc. Et je suis convoqué par le directeur, Et il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? À 20 ans, il faut être optimiste. Mais j'ai dit, oui, mais il y a le dernier plan que je n'ai pas tourné où il y aura de la lumière. Il m'a dit, non, vous ne tournez pas, on arrête là. Alors j'ai dit, ciao.
Jean-Marc Guigui, comment vous regardez le parcours de Lucien Atoun, activiste du théâtre contemporain?
Ben, je crois qu'il a... Il a un mérite énorme, c'est qu'il a tenu la barque. Il a tenu parce que ce n'était pas facile. Et avec Micheline, d'ailleurs, c'est sans plaisanterie aucune, ils ont tenu la maison et ils ont révélé, quand on regarde la liste des auteurs...
Pascal Rambert.
Ouais, Coltès.
Coltès.
Hein, Lagarce. Mm-hmm. Bon, puis plein, que j'aurais adoré jouer s'il m'avait appelé, ce con. Ouais, mais c'est énorme quand on voit... En fin de compte, à l'accumulation, on se rend compte de la qualité. Parce que là-dedans, il y a eu des trucs qui étaient moins bien. Mais il suffit de sortir 4-5 auteurs importants, parce qu'il y en a eu des importants, qui ne seraient pas nés de leur fécondation à tous les deux. Quoi. Ils ont fait leurs enfants, c'est ça. Et ce sont des gens importants. Et pour ça, moi je dis chapeau. Parce que c'était une mode aussi, où les auteurs contemporains, nos camarades directeurs de centres, avaient un immense mépris. On ne jouait que de l'Allemagne. On est un pays latin qui n'a regardé que vers l'Allemagne pendant des années et des années. Ils sont arrivés à jouer des classiques français traduits de l'allemand. Non, mais oui, Jourdeuil et compagnie. Ce sont des fous dangereux. Je peux le dire, j'espère qu'ils m'écoutent. Ils ont quand même trouvé que, je ne sais pas moi, là j'invente, mais que Tartuffe, la traduction allemande était formidable et que ça valait le coup de le retraduire en français pour le jouer. Vous vous rendez compte à quelle perversion intellectuelle ils étaient?
Micheline.
C'est pas vrai, Lucien?
Oui.
Micheline. Oui, mais je suis obligée de m'inscrire en faux sur une chose, c'est que c'est quand même, on ne le dira jamais assez, grâce à Jean-Pierre Vincent et à Jean Jourdeuil aussi, si la toute première manifestation de théâtre ouvert en juillet 1971 a été un véritable triomphe.
Je suis d'accord.
Avec Resvani.
Parce que c'est un auteur français.
Certes, oui. Lucien les a provoqués en leur disant, il y en a marre de manipuler les contradictions des classiques, quand est-ce que vous oserez faire face à un auteur contemporain.
Voilà,
ils ont osé, mais ils ont fait un truc inoubliable. Les spectateurs étaient pliés de rire devant une pièce.
On avait une scène avec Maurice
Le Camp du Drap d'Or, dans laquelle jouait
Jean-Ben Guigui. Vous aviez une scène?
Oui, avec Maurice.
Une scène, on jouait Nouveaux Ali, qui était une espèce de truc. On en a fait une pantalonnade. Les gens étaient morts de rire.
D'ailleurs, c'était extraordinaire, parce que le soir de la deuxième, arrive Pierre Duc, s'habille impeccablement. Et il voit la queue de gens qui sont là. Il me dit, c'était pareil hier. Mais j'ai dit, écoutez, comme on avait dit que c'était à trouver, donc les gens ont pensé qu'il n'y avait pas de toit. Et comme la météo avait annoncé des orages, eh bien, il y a 50 cons, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, qui ont payé leur place et qui ne sont pas venus. J'ai dit, heureusement d'ailleurs, parce qu'on voulait les mettre. Il m'a regardé, il m'a dit, j'étais de ces cons-là.
Alors, et depuis, c'est là qu'il a perdu son agenda, tu te
souviens?
Oui,
absolument, il a perdu son agenda.
Pourquoi vous vous souvenez de
parce
ça?
Parce qu'il avait son agenda, la couverture, c'est la photo de Georges Pompidou. Je m'en souviens très bien.
Oui, mais il a été depuis. Oui, mais depuis, il a été un défenseur.
Oui.
Jusqu'au bout de théâtre ouvert, théâtre contemporain. Comme Grimbert, c'est lui qui l'a programmé. Il y a eu Midiana, il y a eu des femmes comme Noël Renaud.
Très, très beau.
C'est très, très beau. Bon, on a essayé. Voilà. Juste pour être honnête, en ce qui concerne Rambert.
Pascal
Rambert, il y a une chose qui est fausse, en ce sens que Pascal commençait à tourner un peu en rond et je lui ai commandé pour cette maison...
Théâtre ouvert
Non.
France Culture.
France Culture, un radiodrame. 30 minutes, mais il devait raconter une histoire. Il raconte une histoire magnifique et Micheline, je suis désolé, lit parce qu'elle était curieuse et elle dit, mais pourquoi tu t'arrêtes, tu dois donner l'autre face. Alors il fait l'autre face et je programme ça à France Culture. Et ça s'appelle Le début de l'art. Et c'était tellement magnifique qu'ils l'ont joué à la Comédie Française.
Et ils l'ont tourné dans le monde
entier. Et après, la clôture, etc. Voilà.
Et actuellement, il est dans répétition. Il met en scène répétition.
Oui, il va jouer beaucoup de choses. Il va jouer beaucoup de choses au Bouffe du Nord.
Vous avez eu des désaccords sur des hommes de théâtre ou sur des textes, Micheline et Lucien?
C'est à moi que la question s'adresse.
En premier.
Honnêtement, jamais. Des désaccords, jamais. Il m'est arrivé d'être un peu plus réservé que Lucien. Je suis par nature peut-être un tout petit peu plus...
Réservé que lui, c'est facile.
Plus critique. J'ai un esprit critique épouvantable. Et Lucien est un fonceur. Alors, à nous deux, ça s'équilibre. Donc, il m'arrive de voir des futures catastrophes qui, finalement, n'en sont pas, mais qui ne sont pas aussi enthousiasmantes, peut-être, qu'on pouvait l'espérer. Mais comme Jean l'a dit, c'est vrai que sur la durée, il n'y a pas de regrets. Et dire... On me demande souvent, est-ce que vous êtes passé à côté? Est-ce qu'il y a eu des regrets? Est-ce qu'il y a eu des auteurs que vous avez loupés? Et l'honnêteté commande de dire que, franchement, non.
Et vous, Jean-Ben Guigui, des regrets?
Moi, dans ma vie, carrière, de ne pas avoir joué ce Sganarelle. Parce que j'ai joué tout ce qui était autour de ce Sganarelle. Oui. Tout. Oui. Des mélodrames, des machins, avec Rochefort, j'ai joué un mélodrame où c'était le Valet, comme ça. J'ai joué Sancho Panza pour Arte. Et j'ai toujours rêvé de jouer ce Sganarelle. Il y a un type qui s'appelle Jacques Rosner, qui me dit un jour, écoute, prépare-toi, l'année prochaine, je monte Don Juan, etc. Et moi, je suis comme un fou, parce que je vais te faire un spectacle avec lui. Et puis, quelques mois après, j'apprends dans la presse que c'est pas moi qui le joue. Et ça, je trouvais ça que c'était une espèce de crime contre l'humanité, que c'était un truc vraiment qu'on ne fait pas ça à un acteur. Je veux dire, ça, c'est dégoûtant. Il a fait un acte dégoûtant. Je dis, d'ailleurs, depuis ce temps-là, je ne lui parle plus. Voilà. Nous étions jeunes, nous pensions que nous pouvions changer un peu la société, qu'on allait faire bouger les choses, et on se rend compte que 50 ans après, ma foi, ça avance pas, quoi. Mais on en vit.
Quand je l'ai appris, ça m'a beaucoup marqué.
Merci à nos invités. Jean-Ben Guigui, Un parfum d'orange amer, apparu aux éditions Fayard. Lucien Toun et Micheline pour un théâtre contemporain, c'est aux éditions Actes Sud. Et je signale l'exposition, n'en a pas parlé, Un théâtre ouvert, l'audace du texte. C'est jusqu'au 8 février à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
Un metteur en scène qui ne voit pas sous ses yeux que sa femme aime. Question, c'est quoi voir? C'est quoi regarder? C'est quoi mettre en scène? Stan, toi qui prétends mettre en scène la vie.
Demain, il faudra attendre lundi. Émission répétition. Justement, le texte de Pascal Rambert avec Emmanuel Béard. Émission subutex aussi, avec à ses côtés Virginie Despentes. Là, les annonces, Hippolyte.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagane, Manu Farine, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote. Journal de la culture et supplément week-end, Zoé Svez et Benoît Lagane. À la prise de son, Jacques Hubert et Bruno Gagnère-Fontanil. Et à la réalisation, Thomas Beau.
Et avec tout cela, on est dans les temps. Il est 19h54. Vous êtes bien sur France Culture. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée et bon week-end à tous.